britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Madame, vous avez vous-même connu Georges Sand?
J'ai connu Georges Sand jusqu'à l'âge de 10 ans.
Et quelle grand-mère fut-elle pour vous?
Adorable.
Vous souvenez-vous de certaines personnalités qui fréquentaient Nohant à cette époque?
Tourgueneff, Lambert, des amis, Madame Barbeau.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous avons accoutumé de nous interroger ici de temps en temps sur l'actualité de telle ou telle haute personnalité du passé et de nous demander, de son temps jusqu'au nôtre, ce qu'elle peut avoir encore à nous dire. Et ce matin, c'est de Georges Sand que nous allons nous saisir en compagnie de Michel Perrault, familière aux auditeurs de France Culture. Michel Perrault, qui la connaît admirablement et qui a notamment publié naguère une belle édition de ses écrits politiques, des polémiques auxquelles elle s'est livrée. Le destin de Georges Sand recouvre et recoupe tous les tumultes du XIXe siècle, depuis la Révolution de juillet 1830 jusqu'au début de la Troisième République. Au moment de ses obsèques, Victor Hugo s'est écrié « Elle est morte, la voici vivante ». Vivante toujours, en effet, c'est ce que nous allons nous attacher à démontrer. Elle a beaucoup à nous dire sur la République, dont elle s'est faite très tôt la turiféraire enthousiaste, sur le socialisme, qu'elle a rallié explicitement un peu plus tard, sur le féminisme, dont elle s'est voulue une propagandiste déterminée. Quelle République? Portée par le peuple, un peuple à la fois abstrait et concret? Quel socialisme, entre fraternité et solidarité, doctrinaire ou évangéliste? Quel féminisme, souvent critiqué pour avoir privilégié les droits sociaux aux dépens des droits politiques? Je gage, en tout cas j'espère, que lorsque l'heure qui s'ouvre se sera écoulée, la science et la sagacité de Michel Perrault nous auront aidé à donner une réponse à ces interrogations en éclairant l'héritage très actuel d'une femme qui fut en vérité hors de pair.
Je vous dirai tout simplement ce grand mystère sur lequel tous ceux qui prononcent mon nom font de si étranges commentaires. C'est que je n'ai ni secret, ni théorie, ni doctrine, ni opinion arrêtée, ni parti pris, ni prétention de puissance, ni singerie de spiritualisme. Rien, enfin, d'arrangé d'avance. Et pas d'habitude prise. Et je crois pas de faux principes, soit de licence, soit de retenue. Je me suis beaucoup fié à mes instincts, qui ont toujours été nobles. Je me suis quelquefois trompé sur les personnes, mais jamais sur moi-même. J'ai beaucoup de bêtises à me reprocher. Pas de platitude ni de méchanceté. J'entends dire beaucoup de choses sur les questions de morale humaine, de pudeur et de vertu sociale. Tout cela n'est pas encore clair pour moi. Aussi n'ai-je jamais conclu à rien. Je ne suis pourtant pas insouciante là-dessus. Je vous confesse que le désir d'accorder une théorie quelconque avec mes sentiments a été la grande affaire et la grande douleur de ma vie. Les sentiments ont toujours été plus forts que les raisonnements et les bornes que j'ai voulu me poser ne m'ont jamais servi à rien. J'ai changé 20 fois d'idée. J'ai cru par-dessus tout à la fidélité. Je l'ai prêché, je l'ai pratiqué, je l'ai exigé. On y a manqué. Et moi aussi. Et pourtant, je n'ai pas senti le remords. J'ai connu plusieurs sortes d'amour. Amour d'artiste, amour de femme, amour de sœur, amour de mère, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je. Il y en a qui sont nés et morts en moi le même jour, sans s'être révélés à l'objet qui les inspirait. Voilà ma vie.
Michel Perrault, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeanneney. Quel plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de George Sand.
C'est un plaisir, je vous l'assure, partagé. J'ai souhaité que notre conversation s'ouvre sur ce texte, ce beau texte qui est un extrait d'une lettre de George Sand adressée au comte Albert Grimala en 1838. C'est un ami de Chopin qui a été, comme vous le savez, un des amants de George Sand. La lecture est faite par Sylvia Montfort en 1969. J'ai choisi ce texte parce que il me semble que nous y retrouvons beaucoup des questions que nous allons avoir à nous poser, les sentiments et les raisonnements, fidélité, infidélité, le vrai, le beau, etc.
Oui, c'est l'occasion de souligner la qualité épistolaire de George Sand. Ces lettres sont 26 volumes actuellement, publié par les soins de Georges Lubin, qui a été un grand érudit et amoureux de George Sand. Et c'est un témoignage qui traverse le 19e siècle, qui est d'une richesse extraordinaire, on le voit à travers cette lettre.
Alors posons-la telle qu'elle est, George Sand. Je veux dire, voyons d'abord ce qu'il y a en elle d'original, si vous le voulez bien. Vous l'appelez, dans un des nombreux écrits que vous avez donnés sur elle, une métisse sociale.
Métis sociale parce que sa naissance improbable, elle dit « je suis la fille de la révolution et de l'amour hein, », c'est très romantique. Son père était Dupin, Maurice Dupin, c'était un très brillant officier des armées napoléoniennes, un homme assez léger par ailleurs, qui a rencontré une cantinière dont il est tombé amoureux, qu'il a engrossée et il l'a épousée. Le fruit de leurs amours, c'est George Sand.
114 juillet, pas de George Sand.
Absolument, absolument. Sa mère était une petite ouvrière parisienne en mode, à peu près analphabète. Elle a appris à lire un peu grâce à George Sand plus tard. « Je suis la fille d'un patricien et d'une bohémienne », disait-elle, « et je serai avec les bohémiens contre les rois et leurs suppôts ».
Dans cette mésalliance, on trouve de fait un magnifique terreau pour la spécificité de George Sand telle que nous allons la suivre en nous interrogeant sur sa modernité.
Et elle a toujours revendiqué ce métissage social, comme elle dit, comme fondement de ses convictions. Pour elle, le père était le modèle et la mère, c'était le peuple. Le peuple, dans son ingénuité, sa naïveté, la mère chantait beaucoup de chansons. Elle était à peu près, encore une fois, analphabète, mais elle chantait des chansons qui venaient de très loin. Et George Sand avait l'impression d'entendre le peuple.
Le père est mort tôt.
Le père est mort en 1808. George Sand s'appelait Aurore Dupin à ce moment-là. Elle avait 4 ans et ça a été un événement tragique qui a été pour elle comme... une absence éternelle. Le père absent, ça sera une espèce de vide dans sa vie qui est vraiment l'absence éternelle qu'elle a toujours cherché à combler.
Quand elle parle de fidélité et d'infidélité à propos d'elle-même dans le texte que nous venons d'entendre, on pense en particulier à la fidélité, à la mémoire de ce père qu'elle n'a presque pas connu et qui l'a tant inspiré.
Tout à fait. Elle est profondément fidèle, George Sand. Fidèle à sa famille, fidèle à ses idées qu'elle trouve peu à peu, à ses amis. Elle met l'amitié au-dessus de tout, en définitive, tout en changeant beaucoup. Au fond, c'est peut-être en amour qu'elle a été la moins fidèle. Sauf une fois. Avec Michel de Bourges, elle a connu un amour très malheureuse parce que c'est lui qui l'a quittée et elle ne le supportait pas. Et là, elle a été vraiment à deux doigts de se supprimer. Mais les autres fois, elle prenait ses distances.
C'est elle-même qui prenait sa distance.
Et prenait sa liberté.
Est-ce qu'à cet égard, vous vous risqueriez, Michel Perrault, à dire que c'est un des aspects de la modernité de George Sand, un peu comme Madame Dagoût, ce sont des femmes dont la vie a été antérieure à cette grande glaciation qui a été celle de la bourgeoisie de la seconde moitié du 19e siècle.
Oui.
Quant à la condition de la femme bourgeoise.
Je pense que elle a à la fois un héritage du 18e, le libertinage du 18e, il y avait quand même beaucoup de femmes qui y avaient goûté, et on peut dire que sa grand-mère, qui était une femme des Lumières, et qui voulait lui transmettre la grâce, comme elle disait, elle trouvait que sa petite fille était un peu trop masculine. Donc il y a un héritage qui vient de loin. Mais ce qu'elle a ajouté à cet héritage, c'est une réflexion sur la dépendance des femmes et sur la nécessité d'avoir des droits. Et évidemment, on ne pouvait pas au XVIIIe siècle parler des droits comme on en parle après la Révolution française et avec le Code Napoléon. Cet infâme Code Napoléon, comme elle disait, infâme, parce qu'il avait remis les hommes tout à fait en dominant.
Et en particulier, il y a l'abolition par Napoléon du divorce, qui avait été une des conquêtes, notamment pour les femmes, de la Révolution française.
La Révolution avait donné des droits aux femmes, des droits civils, hein, notamment le droit au divorce, le droit au consentement dans le mariage, un consentement reconnu par la loi, hein, il y a toujours eu un consentement bien sûr. Beaucoup de choses avaient été supprimées par Napoléon, qui avait fait, le code civil est un code très patriarcal. Et elle le détestait, et elle a passé toute sa vie à se battre pour le droit au divorce. Elle a été mariée, et il y a eu la séparation de corps avec son mari. Elle aurait voulu divorcer, mais ce n'était pas possible. Il fallait simplement la séparation de corps. C'était la seule chose possible.
Casimir Dudevant, c'est son premier mari.
Casimir Dudevant.
C'est le père de ses enfants.
Voilà, c'est le père de Maurice. On n'est pas tout à fait sûr qu'il soit d'ailleurs le père de Solange, mais enfin, c'était une autre question.
Vous nous la baillez belle.
La baille belle, oui. C'est une chose bien connue et bien discutée. Solange, d'ailleurs, n'ayant jamais remis en cause la paternité de Casimir Dudevant.
On relève une lettre à Casimir en 1825, au début de son mariage, avec une liste de 8 articles destinés à ramener la paix dans le ménage. Article 1, nous n'irons pas à Bordeaux cet hiver. Article 2, si c'est à Nantes, non, c'est le château que Georges Sand a hérité de sa grand-mère. Si c'est à Nantes que nous passons l'hiver, nous lirons beaucoup d'ouvrages utiles. Nous causerons ensemble après. Tu me feras part de tes réflexions, moi des miennes, donc symétrie. Toutes nos pensées, nos plaisirs seront en commun. Jamais de fâcherie, de colère de ta part, de chagrin de la mienne. Article 7, enfin nous serons heureux, paisibles, nous bannirons les regrets, les pensées amères. Plus tard, l'éducation de Maurice, le fils, nous occupera entièrement. Voilà, par elle, dessiner une sorte d'idéal d'un ménage paisible. Ça n'a pas, cela dit, duré longtemps.
Absolument. Il était, Casimir, chasseur et buveur. Ce qui l'intéressait, c'était ses chevaux, ses chiens, boire un coup avec les copains. La littérature, il trouvait ça affreux, et la musique aussi. Alors, elle s'ennuyait avec lui. Elle l'a aimé au début, cet homme. Elle l'a aimé sensuellement aussi, probablement. Ça s'est finalement dégradé, parce que Georges Sand est une intellectuelle. Hein, elle ne vit que, pas que, mais par les livres. Elle aime écrire, elle aime lire. Et lui, il ne comprend pas cela. Donc, avant même qu'ils ne se séparent, elle lui dit un jour, nous ne pouvons plus vivre ensemble, je m'en vais à Paris. Il faut dire qu'elle était amoureuse à ce moment-là de Sandeau. Et elle rejoint Sandeau à Paris. Et
Jules Sandeau, qui est lui-même un écrivain journaliste.
Tout à fait.
D'où le pseudonyme de Georges Sand, il faut rappeler cela.
Oui, c'est compliqué, mais enfin, ça vient en partie de cela. Sand, c'était le nom d'un révolutionnaire, un jeune révolutionnaire allemand. Hein, et on pense que peut-être ça a joué un rôle.
Ah bon.
Et puis on pense aussi, mais ça c'est peut-être un peu trop compliqué, un peu trop subtil, que le sable lui convenait. Sand, c'est le sable en anglais, elle parlait très bien anglais, et l'idée qu'elle serait George, un homme, et Sand, quelque chose de plus incertain, pouvait lui plaire aussi.
Il faut voir comment cette femme, qui devient une femme libre, en dépit des pressions de la morale bourgeoise en province, devient un écrivain, car cela aussi peut éclairer quelques rebonds avec aujourd'hui.
Elle adorait écrire. Quand elle était au couvent des Anglaises, où elle a fait, comme beaucoup de jeunes filles, une part de son éducation adolescente entre 13 et 15 ans, elle avait des calepins, elle griffonnait sans cesse, et elle dit « nous avions toute la rage d'écrire ». Et pour elle, écrire, ça a été des tas de choses. Une passion, elle le dit, une passion d'écrire, et aussi un moyen de gagner sa vie. Parce que elle avait hérité de sa grand-mère cette magnifique maison de Nohant, mais ça lui coûtait très cher, ça lui rapportait rien du tout. Et pour entretenir Nohant et les gens qu'elle invitait, car c'était table ouverte, c'était des gens après naturellement sa séparation de corps, il fallait beaucoup d'argent. Alors elle disait, je vais à Paris. Elle n'aimait pas beaucoup Paris, mais c'est à Paris qu'elle s'est fait un nom, qu'elle a connu la littérature, les éditeurs, et elle gagnait de l'argent à Paris pour entretenir la maison de Nohant, dont elle rêvait de faire un espèce de phalanstère, un phalanstère de l'amour, un phalanstère familial et un phalanstère de la musique. ne faut pas oublier que Chopin a été pendant 10 ans son amant, et pendant 10 ans a vécu pratiquement avec elle à Nohant et à Paris. Ensuite, Liszt, presque au même moment.
Liszt qui était le compagnon, c'était l'amant de
Marie Dagout,
qui signait aussi Daniel Stern.
Voilà.
C'est un milieu très, où les femmes peuvent trouver leur place et où on accepte qu'elles écrivent. Le premier roman est de 1832, le premier roman de George Sand, qui tout de suite touche un public. Et c'est peu de temps après que Honoré de Balzac lui rend visite, on est en 1838, à Nohant, et propose ce portrait.
Son teint bistré n'a pas varié. Ses beaux yeux sont toujours aussi étincelants. Elle a l'air tout aussi bête quand elle pense. Car, comme je lui ai dit après l'avoir étudiée, toute sa physionomie est dans l'œil. Elle se couche à 6 heures du matin et se lève à midi. Moi, je me couche à 6 heures du soir et je me lève à minuit. Mais, naturellement, je me suis conformé à ses habitudes et nous avons, depuis 3 jours, bavardé depuis 5 heures du soir, après le dîner, jusqu'à 5 heures du matin. En sorte que je l'ai plus connue, et réciproquement, dans ces 3 causeries que pendant les 4 années précédentes où elle venait chez moi. Elle est excellente mère, adorée de ses enfants. Mais elle habille sa fille Solange en petit garçon, et ce n'est pas bien. Elle est comme un homme de 20 ans, moralement, car elle est chaste et prude, et n'est artiste qu'à l'extérieur. Elle fume démesurément, elle joue peut-être un peu trop à la princesse. Elle sait et dit d'elle-même ce que j'en pense, sans que je le lui ai dit, qu'elle n'a ni force de conception, ni le don de construire des plans, ni la faculté d'arriver au vrai, ni l'art du pathétique, mais que, sans savoir la langue française, elle a le style. C'est vrai. Elle prend assez, comme moi, sa gloire en raillerie, à un profond mépris pour le public qu'elle appelle jumento. Je vous raconterai les immenses et secrets dévouements de cette femme pour ces 2 hommes, Sandeau et Musset, et vous me direz qu'il n'y a rien de commun entre les anges et les démons. Toutes les sottises qu'elle a faites sont des titres de gloire aux yeux des âmes belles et grandes. Enfin, c'est un homme, et d'autant plus un homme qu'elle veut l'être, qu'elle est sortie du rôle de femme et qu'elle n'est pas femme. La femme attire et elle repousse. Et comme je suis 13 hommes, si elle me fait cet effet-là, elle doit le produire sur les hommes qui me sont similaires. Elle sera toujours malheureuse. Je n'ai pas été impunément à Nohant. J'en ai rapporté un énorme vice. Elle m'a fait fumer un hookah et dû l'attaquer. C'est devenu un besoin pour moi.
C'est une lecture qui remonte au 16 décembre 1958. Je rappelle que jumento, c'est un âne en espagnol. Le hookah, c'est une pipe orientale à l'époque où ces écrivains sont fascinés par l'Orient, comme Flaubert et les autres. Michel Perrault, on trouve là notamment cette sorte de fascination pour une femme qui apparaît proche de la situation de l'homme. En fait, elle s'habille aussi en homme. C'est un des aspects majeurs du regard que les autres jettent sur elle. Pour Victor Hugo, c'est vraiment une femme, puisque lors des obsèques de 1876, j'ai déjà cité un mot de Victor Hugo, il ajoute « George Sand a, dans notre temps, une place unique. D'autres sont les grands hommes, elle est la grande femme. » Dans ce siècle qui a pour loi d'achever la Révolution française et de commencer la Révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. C'est ainsi que la Révolution se complète. Pour Balzac, le regard est différent.
Oui, il y a une différence d'époque, de sympathie, de ton, qui est tout à fait passionnant. Victor Hugo a tout vu, je trouve. C'est magnifique ce qu'il dit. Mais revenons à Balzac. Il dit qu'elle aime travailler la nuit. Pas lui. Hein. Et ça, souligne au passage, George Sand était une nocturne. Hein. À Nohant, les soirées se prolongeaient très tard, on faisait du théâtre, on parlait, et tout le monde montait vers minuit. Et à ce moment-là, elle s'installait dans sa chambre et elle travaillait jusqu'à 4h, 5h du matin. Et elle dormait après. Hein. Elle descendait ensuite vers 10h du matin. C'est pas du tout le style de Balzac, et elle a vécu à peu près toute sa vie comme ça. Elle inverse le temps. C'est pas un temps de femme, ça. Pas du tout. C'est un véritable temps d'artiste. Et puis, ce qu'il dit aussi, c'est que elle se veut homme, au fond. Hein. Qu'est-ce qu'elle est, cette femme? Elle est homme et elle veut l'être, dit-il. C'est une bonne mère, dit-il, une excellente même. Mais elle habille sa fille en garçon. Et ce n'est pas bien. Et l'on voit au passage que les vêtements jouent un rôle essentiel. Elle-même s'est affranchie de la tenue des femmes. Elle l'a fait très tôt, dans les années 1830 à Paris. Hein, et notamment un peu grâce à Michel de Bourges, parce que elle fréquentait les tribunaux, et pour aller dans les séances de tribunaux, les femmes n'étaient pas admises à cette époque-là. Donc elle s'habillait en étudiant, elle passait à travers toute la ville comme ça.
Dis-je, me fit faire une redingote guérite, c'était aussi moche qu'une guérite sur les épaules des garçons, en gros drap gris, pantalon et gilet pareil, avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, j'étais absolument un petit étudiant de première année. Je voltigeais d'un bout à l'autre de Paris, je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j'allais au parterre de tous les théâtres, j'étais trop mal vêtu et j'avais l'air trop simple, mon air habituel, distrait et volontiers hébété pour attirer ou fixer les regards. Oui, être un homme, c'est se fondre dans la liberté des masculines.
Passé présent, on pense un peu à François Sagan par certains côtés. Elle s'affranchit des codes exactement comme François Sagan, Bonjour Tristesse, s'affranchit des codes de son temps. C'est une jeune femme émancipée qui veut absolument conquérir la liberté et qui la conquiert d'abord en déambulant dans Paris avec ce costume d'étudiant qui était évidemment tout à fait insolite.
Oui, parce qu'elle explique que quand elle était habillée en fille, au contraire, sa vêture était aussitôt abîmée par la pluie et autrement. C'était oui. une double prison. La prison,
une prison
par rapport au
oui.
temps, par rapport aux aléas de la pluie, de la neige et par rapport au regard des hommes, évidemment, qui la figeaient dans une situation qui empiétait sur sa liberté.
Tout à fait. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'elle est une excellente cavalière. Ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est cavaler dans ses champs et dans la campagne de Nohant. Et c'est comme ça qu'elle avait d'ailleurs commencé à porter le pantalon grâce à son précepteur, Deschartres, qui était un ancien prêtre d'ailleurs, mais tout à fait affranchi lui aussi.
Visiblement.
Et qui lui avait conseillé de porter le pantalon.
Alors suivons là notre cher Georges Sand, arrivé à Paris et pour la première fois se posant un certain nombre de problèmes politiques qu'elle ne s'était pas posé auparavant. Elle découvre la politique, notamment avec les premières émeutes qui ont suivi de peu l'instauration de la monarchie d'Juillet, de Louis-Philippe succédant à Charles X. On est en 1832, elle découvre l'horreur de la répression.
1830 a été très important pour elle. « Je suis républicaine », écrit-elle à ce moment-là.
Déjà
Ah oui, oui, dès 1831, elle écrit « Je suis républicaine ». Et c'est le moment où, bien sûr, elle habite Paris. Elle habite sur les quais de Paris. Et c'est là qu'elle a composé « Indiana ».
Aux Grands Augustins, quai des Grands Augustins.
Quai des Grands Augustins, oui. Et elle entend de sa chambre les canons de la rue Transnonain. Elle voit, peut-être ne voit-elle pas, peut-être elle imagine le sang dans la Seine qui coule. Vraiment, c'est une espèce de rupture symbolique entre cette monarchie de Juillet et le peuple.
De quoi est faite cette idée première chez elle de la République? C'est d'abord, à vous suivre, une réaction contre la barbarie de la répression monarchique. Est-ce que, positivement, c'est aussi autre chose?
Son sentiment républicain lui vient beaucoup de son père. Son père avait été dans les armées de la Révolution, puis les armées de l'Empire. Et pendant tout un temps, Georges Sand a aimé Napoléon. Après, elle prendra ses distances. Mais elle voit en lui le continuateur de la Révolution. Donc, il y a toujours chez elle l'idée de la République. Cette idée de la République est avivée, mais au fond, sous les Bourbons, elle est un petit peu indifférente, sous la Restauration, je veux dire. Elle est indifférente parce qu'elle a autre chose à faire. Elle se marie, enfin, elle est très jeune à l'époque.
Elle a 26 ans seulement au moment de la Révolution de Juillet.
Voilà. Elle ne va cesser d'évoluer grâce à Michel de Bourges. Elle rencontre Michel de Bourges, brillant avocat, et Michel de Bourges est l'avocat du procès d'avril, où un certain nombre de républicains hostiles à Louis-Philippe sont traduits devant les tribunaux, et on raconte même que c'est Georges Sand qui a écrit une partie de la plaidoirie de Michel de Bourges pour les républicains en 1835.
Il connaît aussi à ce moment-là le socialiste Pierre Leroux, lui qui disait « la voix du peuple est la voix de Dieu ». Donc il y a déjà une sorte de rencontre entre un certain spiritualisme et l'attachement au suffrage universel, déjà.
Oui, elle cherche George Sand. D'ailleurs, dans la lettre qui a été lue au début, elle dit « j'ai changé souvent d'idées ». Mais c'est qu'elle cherche. Elle a été saint-simonienne. Fourier, elle n'aimait pas trop. Elle aurait pu aimer Fourier, mais elle ne l'aimait pas beaucoup. Pierre Leroux, oui. Parce que Pierre Leroux, pour elle, c'est une espèce de synthèse entre toutes sortes de courants d'idées, la République, peut-être une certaine spiritualité, et l'égalité des sexes. Parce que Pierre Leroux a beaucoup insisté sur la question de l'égalité des sexes. Alors, elle l'a beaucoup soutenu. Elle lui a donné beaucoup d'argent pour fonder une revue, la Revue Indépendante, pour fonder un journal, l'Éclaireur de l'Indre, revue et journal dans lesquels elle a écrit beaucoup. Ensuite, elle s'est un peu brouillée avec lui, mais ça, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, elle a lié amitié avec toutes sortes de républicains qui vont se retrouver en 1848.
Moment essentiel, évidemment, dans l'évolution de la pensée et de l'action de George Sand. C'est le moment où elle va dire « la République est la meilleure des familles, le peuple est le meilleur des amis ». Cette réflexion sur le peuple, essentielle du point de vue de tout ce qui peut concerner la République et son fonctionnement et sa légitimité, cette réflexion sur le peuple est centrale chez George Sand.
Qu'est-ce qu'on appelle le peuple ? Pour elle, c'est un grand problème parce que elle évolue aussi un peu. Elle pense que le peuple, c'est l'instinct du juste, du bien, de l'égalité. Et puis, elle découvre que le peuple n'est pas toujours évolué politiquement. Le peuple, ça peut être la foule. Et la foule n'est pas toujours bonne ni juste.
La tourbe.
La tourbe aussi. Et donc, il faut éduquer le peuple. Et éduquer le peuple par l'école. Elle attachait une énorme importance, elle a une pensée extrêmement moderne sur la nécessité de l'école gratuite et obligatoire pour tous. Hein. Elle l'écrit souvent. Elle était très préoccupée d'apprendre à lire et à écrire. Et à Nohant, alors là, c'était peut-être un peu philanthropique, elle réunissait les petites filles des paysans du coin qui n'allaient pas à l'école, et elle leur apprenait à lire. Si on sait apprendre à lire, on peut être libre.
Elle est entourée de paysans et sa réflexion, évidemment, se développe beaucoup autour de la question de l'opposition entre ceux qui habitent dans les champs et ceux qui habitent dans les villes, puisqu'elle va constamment de Nohant à Paris et de Paris à Nohant.
Oui, oui. Elle pense que Paris et les ouvriers de Paris, c'est la pensée libre, c'est l'avant-garde, c'est le futur.
Tous les artisans de Paris en particulier,
les ouvriers. Les artisans de Paris. Elle a été avec Victor Hugo et avec Eugène Sue, la promotrice de ce qu'on appelait les poètes ouvriers. Il y avait beaucoup d'ouvriers qui voulaient écrire, comme Jacques Rancière l'a montré magnifiquement dans La Nuit des Prolétaires. Et ils voulaient écrire de la poésie, c'était ça surtout. Elle les a soutenus et elle a eu toutes sortes de correspondants. Alors il y en a un qu'elle aimait beaucoup, qui n'était pas spécialement poète d'ailleurs, c'est Agricole Perdiguier. Agricole Perdiguier, dont elle a fait le héros d'un de ses romans socialistes, comme on disait dans les années 1840.
Deuxième vague de romans, les premiers sont plutôt sentimentaux, les seconds sont socialistes, ce qui marque un engagement plus net dans la vie publique.
Très, très nettement. Le compagnon du Tour de France, dont le héros, au fond, est Agricole Perdiguier. Et elle montre les histoires de ce compagnon du Tour de France.
Nous sommes là sous la monarchie de Juillet et puis survient la deuxième grande révolution du 19e siècle, c'est-à-dire la révolution de 1848 qui va amener la République, qu'on n'avait pas obtenue en 1830, et qui, du même coup, porte George Sand à un rôle important. C'est le moment le plus politique de sa vie en réalité, puisqu'elle va faire partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui le cabinet d'un des ministres du gouvernement provisoire, du gouvernement Lamartine. C'est Ledru-Rollin qui est à la gauche de cette équipe. Et elle va rédiger en son nom, anonymement, mais chacun sait que c'est elle qui écrit, qui tient la plume, un certain nombre de textes, de bulletins de la République. On est là vraiment au moment maximum de l'action concrète de George Sand. Me voilà occupé comme un homme d'État, écrit-elle à son fils Maurice. Elle est vraiment mêlée de près aux instances du pouvoir. Elle travaille très tard au ministère de la rue de Grenelle, où est Ledru-Rollin, et des conciliabules du gouvernement provisoire se tiennent même dans sa cambuse, dans sa cuisine, dans son petit appartement du 8 rue de Condé, à deux pas du Luxembourg. Et c'est là qu'on voit arriver Ledru-Rollin, Louis Blanc et les autres.
Barbès et quelques autres, oui, absolument, oui, oui. C'était véritablement comme une espèce de coulisse du pouvoir. Et ne pas oublier qu'elle fait tout ça à une époque où les femmes n'ont aucun droit politique. Et elle agissait à Nohant. Son fils était très engagé dans les actions locales. Et puis, elle avait créé un personnage qui s'appelait Blaise Bonin. Bonin, c'est un nom berrichon. C'était son menuisier qui s'appelait comme ça. Et elle écrivait des lettres à Blaise Bonin pour persuader les paysans d'adhérer à la République. Parce que dans le Berry, ils n'étaient pas tellement républicains. D'ailleurs, Georges Sand a été chahuté. Hein. À Nohant, quand ça a commencé à aller plus mal, il y a eu des manifestations contre elle, autour de sa maison, où on criait « Abat Georges Sand, abat les communistes !» Elle n'était évidemment pas du tout communiste, ça va de soi. Mais c'était très intéressant de voir les tensions que son action a pu susciter. Là, il a eu des actions d'avant-garde, tout à fait.
Écoutez cet extrait d'un bulletin de la République qui est lu par Nadine Allary dans l'émission Chronique sauvage de Robert Arnault le 13 juillet 1991.
Citoyens, la France tente la plus grande œuvre des temps modernes, la fondation du gouvernement du peuple tout entier, l'organisation de la démocratie, la république de tous les droits, de toutes les intelligences et de toutes les vertus. La crainte de l'aristocratie, c'est l'idée du communisme. Sous ce mot de communisme, on sous-entend le peuple, ses besoins, ses aspirations, ne confondons point. Le peuple, c'est le peuple. Le communisme, c'est l'avenir calomnié et incompris du peuple. La ruse est fort utile. En réalité, c'est le peuple qui les gêne et les inquiète.
Michel Perrault, Georges Sand, en 1848... joue un rôle majeur et c'est peut-être là que, vu d'aujourd'hui, on a le plus le goût de considérer son action et éventuellement sa modernité.
La République de 1848, démocratique et sociale, pour elle, c'est le bonheur, c'est la réalisation de ses rêves. Et elle s'y engage résolument. Arrivant de Nohant à Paris, elle se met au service du gouvernement provisoire, comme vous l'avez rappelé. Et elle leur dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et ils lui répondent « Mais écrivez, et écrivez pour nous !» Et c'est comme ça, en effet, qu'elle a rédigé un certain nombre des bulletins du gouvernement de la République provisoire, un de ceux que nous venons d'entendre. Et elle était parfois excessive, au point que certains de ces bulletins, par exemple, il y en avait un qui était « aux riches ». Dieu sait si c'est quelque chose, un thème actuel, aux riches. Et elle leur disait, mais il faut que vous compreniez que la fortune doit participer au bien-être de tous. Et elle défendait l'idée de l'impôt. C'est donc une citoyenne moderne, Georges Sand. Mais ça n'a pas été extrêmement bien vu ni bien entendu. Et au bout de deux bulletins un petit peu excessifs, elle a dit à Ledru Rollin et à ses amis, écoutez, il vaut peut-être mieux que je m'arrête parce que je vais vous provoquer des ennuis. Alors elle a arrêté de rédiger les bulletins du gouvernement de la République provisoire. Mais elle a lancé un journal au titre prémonitoire, la cause du peuple. Je ne suis pas certaine que quand Sartre a lancé avec Serge Julie et quelques autres la cause du peuple, il savait que Georges Sand avait fait une cause du peuple en 1848.
La cause du peuple, c'était d'abord Georges Sand.
C'était d'abord Georges Sand. Enfin, il faut pas exagérer, il n'y a pas eu beaucoup de numéros. Hein. Et elle les rédigeait presque entièrement toute seule. Il n'y avait pas non plus beaucoup de collaborateurs. Mais enfin, elle défend un certain nombre de ses idées dans la cause du peuple. Et quand elle a arrêté la cause du peuple, elle a publié beaucoup dans La Vraie République, un autre journal qui était dirigé par un de ses amis qui s'appelait Gustave Thoré. Et elle a beaucoup écrit. Et il y a une réflexion chez elle sur comment exercer le suffrage universel. Parce que 48, c'est le suffrage universel, entendons-nous, masculin. Le suffrage universel, ça veut dire des gens éclairés, instruits, qui prennent leur sort en main. Pour elle, à ce moment-là, la question du peuple et de son éducation s'est posée véritablement.
Vous nous dites, Michel Perrault, qu'elle va loin dans ses propos. Effectivement, je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un de ses articles à ce moment-là, tiré de la cause du peuple. Vous allez voir qu'il y a quelques échos qui peuvent apparaître comme contemporains. Il s'agit de faire succéder le régime de l'égalité au régime de la caste. L'association à la concurrence et au monopole, fléau distinct dans le principe, fléau identique dans ces derniers temps. L'avenir détruira entièrement la richesse individuelle, il créera la richesse sociale. L'avenir n'aura plus de pauvres, il n'aura que des égaux dans la force du terme. Quant aux fortunes déjà faites, laissons-les s'épuiser d'elles-mêmes, imposons-leur les sacrifices que la situation exigera du travail, de la liberté, de l'air, de la poésie, de l'instruction, de l'honneur. Voilà tout ce que nous demandons. Fin de citation. George Sand, 1848.
Oui, c'est un texte d'une de très grande modernité, hein, absolument. Il faut bien noter que George Sand, écrivant cela, au fond, elle va contre ses propres intérêts. Il faut le souligner au passage, car elle est une héritière, hein, George Sand. Mais ceci dit, elle est contre l'héritage et elle pense que ceux qui ont des privilèges doivent lutter pour le peuple et pour l'établissement de l'égalité.
L'héritage, est, oui, en même temps, elle critique aussi les enrichissements trop prompts.
C'est ça.
Parce qu'elle dit « L'homme avide et habile n'aura plus les moyens de faire ses fortunes scandaleuses qui, en se dévorant les unes les autres, dévoraient en somme la subsistance du peuple. »
Autrement dit, elle n'est pas contre la propriété, la petite propriété, mais elle est contre l'inégalité sociale, les grandes fortunes scandaleuses, etc. Oui, elle a une pensée moderne de ce point de vue-là. Et elle va beaucoup développer l'idée de solidarité. Elle disait que dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, elle aimait bien ces trois termes, mais elle aurait voulu liberté, égalité, solidarité. Parce que la solidarité lui paraissait plus laïque, au fond, que la fraternité.
Le mot sera d'ailleurs repris à la fin du XIXe siècle par un certain nombre de radicaux de progrès. Par exemple, Léon Bourgeois, qui a fait un livre sur ce thème. Et quand on va vers la sécurité sociale en 1945, quand on développe tout le système d'assurance collective, on emploie effectivement, comme elle l'avait fait, l'expression de solidarité, plus que celle de fraternité qui apparaît marquée peut-être par un côté un peu excessivement spiritualiste.
Oui, je pense que George Sand est une femme qui réfléchit beaucoup du point de vue politique et dans sa correspondance comme dans ses romans, c'est parfois plus difficile, on trouve l'élaboration d'une pensée républicaine. Comment faire une république solidaire, égalitaire et libre, hein, et comment concilier ces différents termes? C'est la république en acte, enfin en progrès, qui est chez George Sand. Elle croyait d'ailleurs beaucoup à l'idée de progrès. C'était tout à fait de son temps. Elle croyait à l'idée de progrès. Et il y a un historien, Bernard Hamon, qui a beaucoup publié là-dessus, sur George Sand et les idées politiques.
Donc on a vu, Michel Perron, on a vu George Sand passer de la défense et de l'illustration de la République, très tôt, au socialisme. Et elle emploie même le mot de communisme en disant aux bourgeois, ne vous inquiétez pas, le communisme n'est pas pour demain, mais dans un siècle, la France sera communiste.
Oui, alors ça voulait dire les services publics en réalité. C'était ça qu'elle entendait par communisme, car quand on l'a critiqué pour ses idées communistes, elle a dit « mais je suis pas du tout pour l'abolition de la propriété ». Et elle détestait la communauté. Hein. Elle n'aimait pas Cabet. Cabet, c'était l'idée de la communauté dans un livre qu'il avait publié, Icari, elle détestait ça.
Et Cabet a essayé de faire des Icari d'ailleurs aux États-Unis, ça s'est terminé lamentablement.
Oui, tout à fait. Donc c'était pas ça du tout, c'était l'idée de grands services publics qui seraient gérés peut-être par l'État. Il faut pas faire d'elle une théoricienne, hein. C'est quand même pas une femme qui a une théorie très précise du point de vue économique, pas du tout, hein. Mais elle pense en termes sociaux et politiques.
Alors je voudrais que nous en venions naturellement à la question du féminisme, parce qu'elle peut apparaître à certains égards comme une sorte de parangon du féminisme au XIXe siècle, et en même temps, elle a été très critiquée. Il y a une sorte de contraste, me semble-t-il, entre la hardiesse de l'action personnelle et une sorte de timidité de la revendication collective concernant l'égalité politique des femmes. Et puis, le débat, faut-il commencer par les droits politiques, le vote des femmes, ou bien commencer par les droits sociaux? Son choix est fait. C'est la seconde branche de l'alternative et elle a été pour cela largement critiquée par d'autres actrices du mouvement féministe de son temps.
Bien sûr, en 1848, il y avait des celles qu'on appelle les femmes de 1848, Jeanne de Rouen, Eugénie Liboyer et quelques autres. Et ces femmes-là voulaient le suffrage universel pour tous et pour les femmes. Et elles vont même jusqu'à proposer à George Sand d'être leur candidate aux élections pour faire un espèce de coup d'éclat.
Pas question.
Et George Sand leur dit non. Non, je ne suis pas, je n'ai pas envie d'être votre candidate. Et d'ailleurs, je pense qu'il est trop tôt pour les femmes pour avoir le droit de vote. Et elle leur explique que les femmes doivent d'abord avoir les droits civils, avoir l'égalité civile vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire tous les droits civils, parce que si elles n'ont pas les droits civils, elles ne seront pas des individus libres, susceptibles d'être des citoyennes à part entière. Elles voteront comme leur père, leur mari, leurs amants, mais pas comme elles-mêmes.
Mais ça, c'est exactement l'argument que beaucoup d'hommes ont employé dans l'entre-deux-guerres pour expliquer qu'il ne fallait pas donner le droit de vote aux femmes.
Oui, bien sûr. Sur ce point, on peut parfaitement ne pas être d'accord avec George Sand. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'elle avait une logique des droits civils, civil d'abord, politique après. Il était clair pour elle que les femmes voteraient un jour, ça alors vraiment, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, mais elles devaient d'abord être des individus dans leur statut civil. Ça pour elles c'était absolument prioritaire. Il faut comprendre aussi qu'elle s'était battue pour ça, comme la plupart des femmes de son temps. Je pense qu'à Flora Tristan, qui est morte, elle, beaucoup plus tôt, en 1844, la grand-mère de Gauguin, et qui avait eu les mêmes problèmes que George Sand avec son mari. Elle avait un mari alors beaucoup plus méchant d'ailleurs que celui de George. Casimir Dudevant était un brave homme dans le fond, tandis que le mari de Flora Tristan était un brutal qui la battait. Flora Tristan donc a voulu divorcer. Impossible, le droit au divorce n'existe pas. Donc elle aussi, Flora Tristan, s'était fait l'apôtre du droit au divorce et de la conquête des droits civils. Donc on peut comprendre la logique de George Sand. Bien entendu, on peut être d'un autre avis et penser qu'en 1848, il aurait fallu revendiquer le droit de vote pour les femmes.
Quand elle refuse toute candidature, elle écrit à celles qui l'ont incitée à se porter en avant, elle leur dit « Quant à vous, femme qui prétendez débuter par l'exercice des droits politiques, permettez-moi de vous dire encore que vous vous amusez à un enfantillage. » C'est va loin. Votre maison brûle, votre foyer domestique est en péril et vous voulez aller vous exposer aux railleries et aux affronts publics quand il s'agirait de défendre votre intérieur et d'y relever vos pénates outragées. Et elle parle d'un bizarre caprice qui pousserait aux luttes parlementaires, vous qui ne pouvez pas seulement y apporter l'exercice de votre indépendance personnelle. Donc d'abord l'indépendance personnelle et ensuite on entrera dans le forum.
Et ce texte est très clair sur la question et en même temps il permet de voir ce que pouvait être la politique pour elle de temps en temps. La politique c'est quelque chose de noble, 1848, mais ça peut être aussi ce qu'elle appelait la politicaillerie. Hein, les intrigues des députés, elle trouvait ça un peu ridicule et elle trouvait que les femmes avaient autre chose à faire, elle le dit très clairement, que d'aller comme ça au Parlement, où elles seraient rayées. On se moquerait d'elles. Alors là, on entend évidemment beaucoup de choses. On pense à Edith Cresson, par exemple. Les difficultés que la première femme, première ministre de France a eu à affronter, c'était terrible. D'une certaine manière, George Sand voit cela. Elle imagine les difficultés qu'une femme aurait dans un parlement composé d'hommes. Et elle se dit, c'est prématuré tout ça. Il faut d'abord conquérir la stature civile, l'individualité civile. Il y a une pensée intéressante.
Dans la pratique, ce ne sera pas exactement dans cet ordre qu'au XXe siècle, les choses évolueront. Ce ne sera pas d'abord les droits sociaux avant les droits civiques. Enfin, les deux s'entremêleront en réalité.
En réalité, vous avez entièrement raison. Les femmes ont eu le droit de vote en 1944. Elles n'avaient pas encore la totalité de leurs droits civils, loin de là. Puisque c'est simplement dans les années 1965-70, que les femmes ont eu enfin l'égalité civile. C'est tout.
On parlait encore du chef de famille, oui.
Il a fallu beaucoup de temps avec elles, qu'elles aient, les femmes aient le droit d'ouvrir un compte en banque, de signer un chèque. Ça date de 30-40 ans, pas plus.
Et les jeunes femmes d'aujourd'hui, cela paraît inouï que ce soit si récent.
Il y a un trait aussi que nous n'avons pas le temps de développer sans doute, c'est tout son rapport à la maternité. La maternité, elle n'en était pas esclave du tout, mais elle était, comme le dit très bien Balzac, une excellente mère. Elle s'est toujours occupée de l'éducation de ses enfants. Quand elle voyageait, elle emmenait toujours ses enfants avec elle. Et elle pensait que une femme pouvait être totalement libre de choisir ses amants, mais que ses enfants, elle devait les respecter, s'en occuper, être une mère consciente et organisée, et elle l'a fait.
Cela rencontre exactement le témoignage que je vais vous faire entendre de sa petite fille, Aurore Sand, qui, en faisant un peu un saint de vitrail, une sainte de vitrail, mais c'est assez normal, raconte les souvenirs qu'elle peut avoir de sa grand-mère. Elle avait 10 ans déjà lorsque George Sand est morte, et elle se rappelle Nohant, la vie à Nohant. Elle le raconte le 10 juin 1954, interviewée par Evelyne Schlumberger.
Madame, vous avez vous-même connu George Sand?
Oui, mademoiselle, j'ai connu George Sand jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est elle qui m'a reçue dans ses bras quand je suis née.
Ah oui, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelques souvenirs de votre enfance?
Eh bien, je vais vous rappeler que lorsque je suis née, il paraît que j'ai ouvert les yeux quand j'ai été dans les bras de George Sand et que George Sand a prétendu que je la reconnaissais.
Et quelle grand-mère fut-elle pour vous?
Adorable. J'ai le souvenir qu'elle m'a appris à lire, à dormir, à être sage, à ne pas faire de scène, à ne pas crier quand j'étais en colère, et à savoir me dominer et à passer dans la vie très calme d'apparence et très sage.
Était-elle une grand-mère sévère?
Non. Elle n'avait pas besoin de sévérité parce qu'il suffisait qu'elle me regarde pour que j'obéisse absolument à tout ce qu'elle m'indiquait.
Mais était-elle une grand-mère gâteau?
Non. Seulement, elle était adorablement bonne pour tout le monde et en particulier pour les gens qu'elle aimait.
Oui. Et avez-vous le souvenir de la vie qu'on menait à Nohant autour de George Sand à cette époque?
Certainement. La vie était une vie tout à fait familiale, très, très unie, très heureuse, très gaie, pleine de fantaisie et de régularité. Une vie de famille exemplaire.
Vous souvenez-vous de certaines personnalités qui fréquentaient Nohant à cette époque? Du cercle des amis?
Oui, certainement. Tourgueneff, Flaubert, des amis, Madame Viardot, la famille de Madame Viardot, tout le monde, toujours des lettres,
oui,
des arts.
Oui.
Tout était tout à fait agréable, vivant, familier.
Et quand vous l'évoquez, justement, est-ce l'image de la jeune femme passionnée, la George Sand de Chopin et de Musset que vous évoquez, ou celle de la bonne dame de Nohant?
Oh, je suis toute sa vie absolument comme si je la vivais.
Comme si vous la viviez.
Et je l'admire depuis le commencement jusqu'à la fin.
Vous vous sentez sa petite fille?
Tout à fait.
Voilà une radio qui a le ton d'époque. Et Aurore Sand voit sa grand-mère gentille, gentille, gentille. Néanmoins, ce n'est pas tellement contradictoire avec ce que vous nous disiez il y a un instant, Michel Perrault.
Oui, c'est émouvant d'entendre cette très vieille dame, car elle a probablement 90 ans à cette époque-là. Elle a vécu presque centenaire, Aurore Sand, et on lui doit d'avoir conservé la maison de Nohant, qui est une merveille, enfin, qu'il faut aller voir.
On peut la visiter aujourd'hui, au cœur du Berry.
Dans le cœur du Berry, dans l'Indre, et c'est une des très rares maisons de femmes écrivains en France. Hein. On fait des efforts actuellement pour sauver la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, mais Colette a quand même moins habité à Saint-Sauveur que George Sand à Nohant. D'un autre côté, il ne faut pas non plus se laisser submerger par la bonne dame de Nohant. Je crois que la bonne dame de Nohant, qui est une belle image, bien sûr, mais a fait oublier la George Sand féministe pas dans les mots, le mot n'existait même pas, mais dans ses actes, dans sa liberté et son engagement politique. Autrement dit, votre émission entend lui redonner la totalité de sa dimension, et je crois que c'est très bien. Il faut avoir tout.
Pas trop d'images pieuses, n'est-ce pas,
oui,
Michel
Perrault? Oui, pas trop d'images pieuses, pas trop d'agir, bien sûr.
Alors nous résistons à la bonne dame de Nohant, effectivement.
Résistons un petit peu à la bonne dame de Nohant, tout en l'aimant beaucoup.
Elle est repliée, cela étant dit, sur ses terres, effectivement, sous le Second Empire, puisqu'elle est en fait dans une opposition, non pas d'exilé comme Victor Hugo, mais de l'intérieur.
On le lui a reproché, on lui a reproché de ne pas s'être exilée comme l'a fait Victor Hugo. Elle répondait « Oui, mais je suis une femme. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maison, je ne suis pas dans la même situation. » Là, il y avait quelque chose aussi du masculin-féminin. Mais ceci dit, étant à Nohant, elle en a fait un centre de contestation. Elle accueillait les opposants au régime. Elle s'est beaucoup battue avec du courrier, avec des entrevues pour arracher beaucoup de ses amis à la prison, au bagne, à la déportation. Elle n'a pas toujours réussi, car le Second Empire a été très dur.
La première décennie, en tout cas.
Oui, la première décennie, absolument. On lui répondait des lettres gentilles et puis on n'en faisait rien du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle a été parfois critiquée. Mais elle ne s'est jamais ralliée au Second Empire. Jamais. Elle a continué à écrire des articles d'opposition, elle n'a jamais fréquenté la cour de Napoléon III, et elle était très liée avec le prince Napoléon Jérôme, qui est certes de la famille de Napoléon, son neveu, mais qui était un républicain convaincu.
Le fils du dernier frère de Napoléon, Jérôme.
Jérôme.
Lui-même, on l'appelle familièrement Plomplon.
Plomplon. Oui.
Écoutez donc cette lettre, justement. Oui. Cette lettre de Georges Sand adressée au prince Napoléon Jérôme, qui est datée du 25 novembre 1870 et qui est lue ici par Christine Regnault en décembre 1958. Novembre 1870, on est évidemment après la défaite de Sedan et après l'installation de la République.
La proclamation de la République.
Le 4 septembre 1870.
Sans effusion de Sand. Comme elle va écrire, et pour elle, c'est une date importante.
Pourquoi me disiez-vous que vous ne saviez comprendre la lettre que j'ai publiée au lendemain de Sedan ? Je disais alors que nous devions attendre. La République a été proclamée en même temps que ma lettre paraissait, et le lendemain, surprise mais vaincue par ce grand événement, je disais « Ayons espoir et confiance ». Ne suis-je pas républicaine en principe depuis que j'existe ? La République n'est-elle pas un idéal qu'il faut réaliser un jour ou l'autre dans le monde entier ? La question de temps et de possibilité rentre dans la politique et je ne me fais pas juge des questions de fait, je ne saurais pas. Seulement la République, proclamée sans effusion de sang, est un grand pas dans l'histoire des idées. Elle prouve la force de l'idée. Et quand l'idée prévaut dans une grande résolution des masses, on doit suivre ce mouvement et ne plus dire « c'est trop tôt ». Les luttes qui nous attendent après la guerre, je ne me les dissimule pas. Mais que pouvons-nous voir de plus tragique et de plus affreux que la situation où nous a jeté l'Empire ? On s'est assoupi 20 ans sur une idée d'empire socialiste qui a été un rêve, suivi d'atroces et honteuses déceptions. Si votre dynastie eût dû s'établir, j'aurais voulu vous voir à la place de celui qui nous a menés à travers tant de contradictions et de volontés intermittentes, comme dit Renan, à un patatras effroyable. La République, que je n'espérais plus, se croit la force de tout réparer. Dieu la protège. Elle est mon principe et ma foi.
Ce patatras effroyable qui vient, dans la honte de la défaite devant la Prusse, ramener la République, Georges Sand dit qu'elle ne l'attendait plus, Michel Perrault.
La proclamation de la République sans effusion de sang, encore une fois, comme elle le dit, est pour elle une heureuse surprise. Dans des circonstances dramatique, puisque la France est en train battue, hein, envahie. Elle écrit d'ailleurs à ce moment-là un journal d'un voyageur pendant la guerre qui est un très beau reportage sur le centre de la France envahi par les armées prussiennes.
Que vous avez réédité récemment d'ailleurs.
Oui, et puis il va y avoir la Commune. Et la Commune, elle ne l'a pas comprise du tout. Elle l'a réprouvée comme la plupart des intellectuels et des écrivains de son temps. Paris est fou, écrivait-elle. Paris est fou. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait à Paris. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Elle avait perdu contact avec les nouvelles générations ouvrières, par exemple. Elle ne les connaissait plus. Les ouvriers de 1870 ne sont plus ceux de 1840 qu'elle avait connus. Bon, elle ne voit pas bien leur idéal. Deuxièmement, elle n'aimait pas les blanquistes. Parce que les blanquistes, contre les partisans de Barbès, étaient des gens qui rêvaient putsch, qui rêvaient prise de pouvoir violente, qui pensaient prendre le pouvoir par la Commune. Elle ne voulait pas ça, elle voulait l'exercice démocratique par le suffrage universel. Donc elle était, par principe, contre cela, contre eux. peut-être plus profond encore, George Sand n'a cessé d'évoluer contre la violence. La violence dans l'histoire est devenue pour elle quelque chose de redoutable. Dans sa jeunesse, elle aimait Robespierre. Elle avait frémi pour la terreur. À l'âge qu'elle a maintenant, elle n'aime plus la terreur.
66
ans. Robespierre. La terreur et la Saint-Barthélemy, dit-elle à un jeune poète, c'est la même chose. Méfions-nous des charniers, il n'en sort rien de bon. Restons révolutionnaires, patients et obstinés, mais jamais terroristes. Et c'est un petit peu son legs politique dans cette lettre écrite en 1871.
Elle annonce d'ailleurs à peu près ce qui sera la doctrine de Jean Jaurès quelques décennies plus tard.
Exactement.
Il faudra la révolution, mais il ne faut pas la faire par renversant la table.
Et là on voit la modernité d'une pensée comme celle de George Sand par rapport à Jaurès et même à notre réflexion contemporaine sur la violence.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Michel Perrot, peut-être faut-il rappeler tout de même pour finir que cette grande George Sand, dont nous avons exploré les points de vue politique en tâchant de réfléchir à sa modernité, est aussi un grand écrivain et qu'on retrouve dans son œuvre, dans ses livres, dans ses romans, de façon non didactique mais très efficace, beaucoup des idées qu'elle a portées.
Une œuvre considérable, une centaine de romans, inégaux sans doute, mais dont certains sont parcourus par la flamme du siècle en quelque sorte, et où à travers des personnages variés, elle incarne des figures positives. Par exemple, figures positives de prolétaires, de paysans, de femmes. Je pense à Consuelo, qui est un très beau roman, un des plus grands romans de George Sand. Consuelo est une cantatrice qu'elle a rêvé d'être, probablement, et qui parcourt l'Allemagne en quête du progrès.
Elle renvoie à Pauline Viardot, la cantatrice de ses amis qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà. Et puis, Nanon, qui est un roman de l'époque de la République, publié dans les années 1872, et qui incarne, on pourrait dire, une paysanne parvenue peut-être, mais une femme qui a forgé son destin par elle-même, contre toutes les adversités. Très beau roman qui a été réédité récemment par Nicole Mauzet.
Vous avez, Michel Perrot, édité, publié les textes de George Sand sur la politique. C'est un recueil essentiel, ça s'appelle « Politique et polémique ». Publié d'abord à l'Imprimerie nationale et réédité chez Belin en 2004. Parmi toutes les biographies qui existent, je voudrais signaler la dernière en date, chez Gallimard, collection Folio, la biographie de Martine Reed. Ça s'écrit R-E-I-D, George Sand. Je crois que vous appréciez cette biographie.
Beaucoup, beaucoup. C'est comme tous les travaux de Martine Reed sur George Sand, mais ça fait vraiment, c'est accessible et très bien. Bonne synthèse, remarquable.
Je renvoie aussi à Histoire de chambre au seuil, où George Sand apparaît, puisque vous évoquez sa chambre mortuaire.
Oui, la mort de George Sand à Nohant est un épisode de l'histoire de la mort autant que de l'histoire de George elle-même.
Vous retrouverez une bibliographie plus large, plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, avec Jean-Guilain Meige à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Anne Brulant pour les Archivina.